Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guilherme Meige. Affaire Lambert, affaire Bonne Maison. L'une n'a pas grand-chose en commun avec l'autre, mais leur télescopage dans l'actualité vient de relancer le débat récurrent en France de la fin de vie. La loi Leonetti de 2005 est appelée à évoluer. L'auteur de cette dernière, le député UMP du même nom, a été chargé, avec son collègue socialiste Alain Claeys, de proposer des aménagements au gouvernement d'ici la fin de l'année. Affaire Lambert. Le sort de cet homme tétraplégique suite à un accident de la route en état végétatif depuis 6 ans est désormais suspendu à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a demandé hier soir qu'il soit maintenu en vie le temps pour elle de se prononcer. Un peu plus tôt, le Conseil d'État avait jugé légale la décision médicale de mettre fin au traitement du patient, en soulignant que cette décision correspondait à la volonté exprimée par celui-ci avant l'accident. Affaire Bonne Maison. Ce matin, l'ancien médecin urgentiste de l'hôpital de Bayonne a été acquitté par la cour d'assises de Pau. L'avocat général avait requis 5 ans de prison avec sursis contre Nicolas Bonnemaison, poursuivi pour avoir abrégé la vie de 7 de ses patients. Les jurés ont considéré que l'intention d'homicide n'était pas établie. Alors dans l'affaire Lambert, l'appareil judiciaire est mis au premier plan. Une dérive pour certains qui voient dans cette succession de décisions une judiciarisation excessive de la pratique médicale. Dans l'affaire Bonnemaison, ce sont les soignants qui sont indirectement confortés dans leur rôle décisionnel. Le médecin urgentiste n'aurait pas dû agir seul sans en informer les familles, mais la place du soignant dans ce délicat processus n'est pas remise en cause. Alors il ressort de cette double actualité un sentiment de confusion. Est-ce à la justice de décider de la fin de vie, davantage qu'au médecin, qu'à la famille, davantage qu'au principal concerné, à savoir le patient ? Fin de vie, à qui appartient la décision ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Charles Jousselin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Vous êtes par ailleurs médecin, praticien hospitalier au sein de l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs du CHU Bichat Claude Bernard à Paris. Pour discuter avec vous ce soir, Philippe Bataille, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, directeur d'études à l'EHESS, vous y dirigez le CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Vos travaux portent sur la place de l'individu dans la relation médicale. Vous avez publié, c'était en 2012 aux éditions Autrement, « À la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu ». Puis notre troisième invité est juriste, il s'agit de Guillaume Drago. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas, c'est à Paris également. Vous venez de signer, c'était avant-hier, me semble-t-il, une tribune dans le Figaro sur en gros, les problèmes juridiques et moraux auxquels étaient confrontés les hauts magistrats du Conseil d'État. C'est une tribune que vous aviez signée avant l'arrêt rendu hier par le Conseil d'État. Vous n'évoquiez pas dans cette tribune, l'affaire Bonne Maison, qui évidemment est une affaire très distincte et qu'il faut sans doute faire attention à ne pas mélanger avec cette affaire Lambert, parce qu'on est quand même sur deux choses très différentes. Mais est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, Guillaume Drago, que si la justice se mêle de ces différentes affaires, c'est a priori parce que la loi en vigueur, à savoir la loi Leonetti, est imparfaite?
Alors, il faudra discuter du caractère imparfait ou non de la loi Leonetti. Ce que l'on peut dire, c'est que ces deux affaires manifestent une judiciarisation constante de la société française. C'est-à-dire que là où autrefois, en définitive, la famille, le patient lui-même pouvait décider, ou d'une certaine façon, la mort naturelle décider pour lui, eh bien, on est dans les questions de fin de vie, soumis à une judiciarisation, c'est-à-dire qu'on va traiter des conflits, non pas dans le cadre seulement médical, mais aussi dans un cadre judiciaire.
Alors, et est-ce que la justice, en tout cas les professionnels de justice, portent une responsabilité dans cette judiciarisation ? Évoquons par exemple le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui avait décidé, c'était mi-janvier, on est là dans l'affaire Vincent Lambert,
oui.
De suspendre la décision de ne plus alimenter cet homme, donc il y a eu un accident de la route il y a quelques années de cela. Alors évidemment, le tribunal administratif avait été saisi, mais est-ce que les juges du tribunal n'auraient pas dû dire qu'ils étaient incompétents sur ces questions, sur cette question ?
Alors, ils ont statué en fonction des critères de la loi Leonetti. Donc, s'il y a une loi, c'est qu'elle peut être appliquée et que le juge est là pour trancher des conflits. Le tribunal de Châlons-en-Champagne avait d'ailleurs dit que sur un certain nombre de questions, il n'était pas entièrement compétent. Et puis, d'autre part, il faut bien comprendre que cette décision du tribunal administratif n'était qu'une première décision. La suite a montré que, justement, le Conseil d'État, en étant saisi par les parties, a voulu à la fois prendre le temps de la décision par des expertises et a rendu une décision qui est quand même une décision tout à fait importante pour notre situation.
Philippe Bataille, est-ce que ça vous semble nouveau le fait que la justice soit, semble-t-il, de plus en plus amenée à intervenir dans des décisions de fin de vie, dans des affaires de fin de vie ?
Oui, dès lors qu'on l'y a invité. Comme vous dites, il y a encore peu de temps, la justice n'intervenait pas dans ces affaires, mais soudain, des lois ont été écrites, elles ont eu un effet contraignant à minima sur la lecture, y compris que des soignants pouvaient avoir de ce que faisait un docteur en le suivant et en faisant un rapport sur la question. Nous avons, il n'y a pas que la loi, je veux dire, il y a aussi une dimension morale des choses qui s'est répandue sur la question de la mort à l'hôpital, avec une situation acadabrantesque pour la France ce matin, où d'un côté la plus haute juridiction française donne une indication et elle se fait aussitôt arrêter par la Cour européenne.
Même si elle ne se fait pas arrêter sur le fond, c'est-à-dire c'est sur la forme pour dire la plus haute juridiction européenne dit laissez-nous le temps de statuer, donc forcément on va suspendre la décision du Conseil d'État parce que sinon on risquerait de devoir statuer sur le cas d'une personne qui serait décédée. Oui, donc il y a une forme de logique judiciaire.
Dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire simplement le fait d'arrêter ce qui a été suggéré hier, à savoir de suspendre l'hydratation et l'alimentation artificielle de Vincent Lambert. Vincent Lambert, la Cour européenne vient de dire ne faites pas ça. Alors, est-ce qu'ils disent qu'il faut entretenir la vie et ne pas attenter à la vie de Vincent Lambert, ou est-ce qu'ils disent qu'il y a pas de possibilité d'attenter sous cette forme-là, ce qui a déjà été fait, puisque Vincent Lambert a déjà eu son hydratation et son alimentation suspendues pendant plus d'une trentaine de jours, il y a effectivement les conditions humaines dans lesquelles les Français meurent, dans le cadre de la loi, puisque c'est le Conseil d'État qui vient de le redire, qui peut-être effectivement fait réagir la Cour européenne des droits de l'homme.
Charles Josselin, est-ce que vous partagez ce constat d'une judiciarisation de plus en plus présente de ces questions de fin de vie ? Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? D'ailleurs, si vous partagez ce constat, est-ce que c'est parce que ceux qui assumaient peut-être ces décisions autrefois les assument moins facilement et se retournent du côté de la justice ?
Est-ce que je constate ça ? Je constate comme vous. En revanche, la loi Leonetti, je voudrais dire quand même que vous avez parlé d'une loi imparfaite. Si elle est humaine, heureusement qu'elle n'est pas parfaite, elle ne serait pas très humaine. Mais la loi Leonetti est en fait un énorme progrès, un progrès considérable, qui nous permet quand même de redonner la parole au patient, même s'il n'a plus la parole, on recherche sa parole, de travailler en équipe, de travailler avec le patient étant au centre du soin et la décision médicale ne devant plus être prise seule, qui lutte contre la solitude. Donc cette loi a apporté énormément. S'il y a un progrès considérable qui a été fait, c'est grâce à cette loi Leonetti. Et juste pour dire que, d'ailleurs, il me semble, et je me permets de dire ça, que si cette loi est peu connue, ce n'est pas tant parce qu'elle est peu diffusée, c'est peut-être parce qu'elle dérange, parce qu'enfin, on a obligé quelque part, enfin on peut le dire comme ça, la loi a obligé que l'on fasse un travail en équipe de façon interdisciplinaire en s'intéressant au patient qui est au centre du soin, et ça, c'est un progrès considérable de la médecine. Alors qu'elle soit imparfaite, évidemment, toutes les lois sont imparfaites, peut-être qu'il faut la reprendre, mais en tout cas, il ne faudrait pas la mettre aux orties trop vite, parce qu'elle a fait un progrès considérable dans le soin des malades.
Guillaume Drago,
on peut ajouter le fait que, de toute façon, une loi ne vient jamais répondre à toutes les situations individuelles. Or, toutes ces situations de fin de vie sont nécessairement touchant aux droits fondamentaux de la personne, toujours des situations individuelles. Alors, on peut avoir des cas de figure, on peut avoir des règles applicables dans telle ou telle situation, mais ce sont toujours le cas de telle ou telle personne qui est en cause. Et donc, la loi ne peut pas, évidemment, traiter.
Et est-ce que le Conseil d'État, quand il rend son arrêt sur une affaire individuel ou bien est-ce que c'est une décision qui peut aller au-delà? Parce que c'est aussi ça que pose le problème de l'arrêt rendu hier. Il y a beaucoup de familles qui craignent que ça fasse jurisprudence, même si le Conseil d'État s'en défend en disant non, on ne statue que sur Vincent Lambert et sur le fait qu'il avait exprimé le souhait de ne pas, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique s'il se retrouvait dans cette décision. Voilà, c'est aussi là-dessus qu'il y a litige, oui, hein, bien entendu. Alors, je veux dire, est-ce que cet arrêt du Conseil d'État, il risque de faire jurisprudence?
Alors, moi, je crois qu'il faut le craindre, parce que même si le rapporteur public, celui qui avait présenté les conditions de la décision, qui présentait la question juridique au juge du Conseil d'État, avait dit que c'était un cas d'espèce, a-t-il dit, en se tournant, paraît-il, vers la famille. En réalité, on voit bien que le fait de faire appel à la formation la plus solennelle, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État,
c'est-à-dire les 17 juges, c'est-à-dire
les 17 juges les plus expérimentés, eh bien, est une décision qui fait jurisprudence. Et d'ailleurs, le vice-président du Conseil d'État lui-même a dit que c'était sans doute une des décisions les plus difficiles que le Conseil d'État avait eu à rendre depuis 50 ans. Donc ça ne peut pas être seulement considéré comme décision d'espèce, c'est une décision qui nécessairement fait jurisprudence, mais attention, c'est une décision qui porte sur un processus administratif contesté et qui prend en quelque sorte position sur ce processus administratif. C'est pas une décision, n'est-ce pas, à caractère pénal, c'est pas une décision à caractère civil sur une personne seulement dans ses droits. C'est une décision à caractère administratif, donc elle a certaines particularités, n'est-ce pas. Elle n'est pas c'est pas une décision absolument d'espèce ni totalement particulière non plus.
Philippe Bataille.
Pour rester dans le cadre que vous avez posé, la question que vous me soumettez, qui décide, qui appartient à la décision, parce que, voilà. Et prenons les affaires Bonne Maison et Lambert, qui effectivement n'ont rien à voir sur un plan médical et même sur ce qui est sollicité.
Il y a une affaire pénale d'un côté, une affaire administrative de l'autre.
Mais qui tout de même nous donne deux extrêmes de situation. D'un côté, la médecine qui n'est plus en mesure de pouvoir arrêter un acharnement thérapeutique à ce jour. C'était vrai hier, mais aujourd'hui, elle ne le peut pas. Et d'un autre côté, un médecin urgentiste soumis au quotidien de l'hôpital qui se retrouve dans des situations où il a été amené à, effectivement, faire mourir des individus qui étaient dans ses services et qui étaient en train de mourir, en train de gasper, etc., etc., qui étaient déjà dans des comas dépassés, etc., etc. Et nous avons ces deux situations, et dans les deux cas, c'est bancal. D'un côté, c'est clair, un acharnement thérapeutique, la médecine dit « je me désengage », voilà, elle a le droit de le dire. Et d'un autre côté, vous avez un médecin qui se retrouve seul face à des situations tout à fait ordinaires et qui nécessite sa réponse. Que peut faire la médecine à ce moment-là pour cette personne dans ces circonstances? Et dans les deux cas, on est face à quelque chose qui s'est révélé tout à fait insatisfaisant, pour ne pas dire assez cruel, dans les situations humaines qui ont été données à voir et à comprendre, alors qu'effectivement, le juge, le médecin, enfin tout le monde est auprès du lit du malade. Donc moi, je crois qu'il faut garder votre entrée en disant il y a des situations où la décision est une autodétermination. Et c'est ça qui réapparaissait dans l'affaire Lambert, puisqu'il a dit ses volontés, qu'il ne voulait pas vivre dans ces circonstances. Et c'est là-dessus que s'appuie le Conseil d'État pour effectivement proposer que l'on arrête tout, c'est-à-dire qu'on arrête l'acharnement thérapeutique. Et d'un autre côté, dans l'affaire Bonne Maison, on est moins dans l'autodétermination du malade qui dit comment il veut mourir. On est dans le besoin d'un médecin qu'on appelle, qui est le dernier, après toute une chaîne de médecins qui ont tous signé le dossier en disant que c'est là que les choses vont se finir, c'est entendu. Et qui, effectivement, décide. Mais vous le voyez, on ne saurait mettre en cause ni la médecine, ni la justice, ni les malades, ni les familles, alors que tout le monde est en cause aujourd'hui, puisque personne ne s'entend.
Charles Jossin, est-ce que ce sont des décisions qui sont susceptibles de créer de la confusion dans le corps médical? C'est-à-dire, on ne sait plus, finalement, à qui appartient, effectivement, la décision?
Pour le moins, je voudrais quand même rappeler que, finalement, qui décide? À moins de se déclarer incompétent, le médecin passe son temps à décider. Sans cesse, il décide. Et il décide comment? Il décide, le médecin, c'est un personnage qui est médium, qui est médiateur, qui soigne. Et le contraire du soin, c'est la négligence. Donc, et dans ce soin à l'autre, ce qui me paraît essentiel, c'est la confiance. Vous voyez, on est loin de toute cette judiciarisation. Qu'est-ce qu'il en est de cette singularité, à chaque fois, c'est un cas particulier, une confiance. Et la décision est toujours un processus dans une rencontre entre une famille, entre un médecin et son patient, prenant en charge ses proches, etc. Vous voyez, Alors, je veux bien que toute cette justice a beaucoup d'importance, mais quand même, on s'éloigne beaucoup de l'être humain. Et il me semble que déjà, autant la médecine pourrait déjà, avec grâce, malgré ou grâce à sa technique, est assez déshumanisante. Et je me semble que la justice n'est pas en train de réhumaniser le soin.
Alors justement, sur la question de la confiance, est-ce que, alors, par exemple, si on prend l'affaire Vincent Lambert, on risque pas d'avoir des familles. Manifestement, c'est déjà le cas. Il y a notamment l'association des familles de traumatisés crâniens et de cérébraux lésés, ça concernerait environ 1700 patients aujourd'hui en France, qui disent, bah, attention, si la décision du Conseil d'État fait jurisprudence, on risque aussi, finalement, à terme, de vouloir nous imposer une fin de vie pour personne de notre famille qui est atteinte. Et puis, dans l'autre cas, l'affaire Nicolas Bonnemaison, est-ce que c'est pas aussi donner indirectement le droit à un médecin seul, puisque, il faut le rappeler, il a été acquitté, de procéder, enfin, d'accélérer la fin de vie d'un de ses patients sans un référé au collectif?
Non, je pense que sur l'affaire Vincent Lambert, ce qui est rappelé, c'est que le Conseil d'État rappelle qu'il faut appliquer la loi du 22 avril 2005. Voilà. Et l'affaire Bonnemaison montre bien qu'il n'a pas appliqué la loi du 22 avril 2005. Donc ce qui est essentiel, c'est d'appliquer cette loi, comme je vous le dis, qui apporte quand même une qualité dans le soin considérable, parce que justement, on lutte contre la solitude, on regarde le patient en face et on l'écoute, et s'il ne vous parle pas, on cherche les souhaits antérieurement exprimés par le patient, on travaille en équipe. Tout ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est la loi. Et donc, juste pour dire que cette loi est vraiment un progrès et elle va nous sortir de tout ça, car chaque cas est singulier.
Elle fixe un certain nombre de critères. Par exemple, la nécessité d'une décision collégiale. Le fait de consulter, évidemment, le patient, s'il est encore en état de comprendre, de répondre. Oui. La collégialité est un élément tout à fait important. C'est finalement ce qui a été quand même reproché au docteur Bonnemaison. Et c'est ce qui est aussi, d'une certaine façon, au moins dans une phase de la procédure, reproché au docteur Carrigère. Et puis, il y a aussi des processus proposés par la loi Leonetti, même imposés par la loi Leonetti, les directives anticipées du malade, c'est-à-dire vous pouvez écrire ce que vous souhaitez si vous n'êtes plus en état ensuite, en étant malade, de pouvoir répondre. Ces dispositifs sont quand même tout à fait importants. Et puis dernier point, l'existence d'une personne de confiance, si vous n'êtes plus en état, est un élément quand même tout à fait essentiel. Votre famille, un membre de votre famille que vous désignez comme une personne de confiance et qui va pouvoir savoir ce que vous avez voulu dire. Je crois que dans l'affaire Lambert, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu de directive anticipée, il n'y a pas eu de personne de confiance déterminée. Et évidemment, chacun dans la famille, c'est légitime, se sent une personne de confiance, l'épouse, les parents. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le conflit naît facilement. La loi Leonetti, ce qu'elle a voulu, c'est essayer de prévenir ces conflits de façon à pouvoir répondre au mieux avec toutes les incertitudes de la fin de vie ou de la maladie incurable qui demeurent malgré tout.
Alors, évidemment, c'est une loi qui, comme toutes les lois, est imparfaite, cette loi Leonetti. Ce matin, il y avait Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, qui était sur notre antenne à France Culture, qui avait, lui, déjà remis un rapport en décembre 2012 au gouvernement et qui disait, alors, effectivement, il y a de très bons côtés dans cette loi Leonetti, mais elle a aussi eu un effet sans doute inattendu, en tout cas non voulu, qui était d'avoir rejeté la mort. Expliquait Didier Sicard, on refuse le laisser mourir, on a du mal à laisser faire la nature, car il y a un sentiment d'abandon. Est-ce que c'est un effet pervers que vous avez noté dans votre travail, Philippe Bataille? C'est-à-dire finalement, ça oblige peut-être les médecins à, en tout cas, ça les contourne de leur mission qui est aussi peut-être d'affronter cette mort.
Il faut donner de l'écho à ce que vient de dire Didier Sicard, qui a effectivement fait un tour de France, entendu beaucoup les citoyens, les soignants, voilà. Moi, ce que je veux dire par rapport à la loi Leonetti, on le voit bien dans l'affaire Bonnemaison. Il y a une loi pour accuser et une autre pour juger. Et ça a bugué puisque la loi qui accusait n'était pas pertinente finalement au pénal face à l'accusation réelle qui était celle d'avoir tué sous forme d'un assassinat. Et cette situation aujourd'hui perdure ou se répète. Ou sur l'affaire Lambert, elle se renverse. La loi Leonetti permet de dire qu'il faut arrêter la ville de Vincent Lambert, mais elle ne dit pas vraiment comment. Et si on sait comment, c'est ce qui a déjà été pratiqué, je le dis, c'est l'arrêt, la suspension d'hydratation d'alimentation. Et voilà. Et on peut réagir à ça. Et même une mère, après tout, peut rentrer dans la chambre de son fils et trouver que 30 jours de suspension d'hydratation, d'alimentation, ça ne se fait pas. Il ne faut pas être un intégriste catholique fervent pour pouvoir penser comme ça et réagir comme ça. Et on a le droit, en plus, d'être catholique dans ce pays. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes arrivés à une situation où la mort, qui n'est pas évoquée à l'hôpital, alors qu'elle se passe à l'hôpital, n'est toujours pas véritablement, je ne vais pas dire encadré, organisé, parce que les choses ne se passent jamais comme prévu, les gens ne réagissent jamais comme ils ont annoncé, les médecins eux-mêmes peuvent avoir plus de désarroi que de certitude, et y compris pour ceux qui accompagnent sous des formes différentes jusqu'au bout. Donc on est dans une situation facilement dite d'impensée sociale, etc. Moi, ce que je veux dire, c'est tout ça une dimension presque anthropologique et pas tellement sociologique, parce qu'on n'a même plus les catégories de l'analyse, les registres du droit qui interviennent, on ne les a jamais vus intervenir à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, il y a des gens dans les lits, pendant ce temps-là, il y a des gens en blouse blanche, pendant ce temps-là, il y a des gens qui circulent dans tous les sens pour pouvoir accompagner correctement, ils n'y arrivent pas en dépit des efforts qu'ils peuvent faire ou des soins palliatifs qui leur apportent tout pour le réaliser. Donc, on est dans cette situation. On doit en sortir. Et en sortir, c'est reconnaître que l'on meurt massivement à l'hôpital, que même si on organise les soins en domicile, à la toute fin, quand les complications arrivent, et parfois la nuit, on se retrouve aux urgences, et on a effectivement 54% des certificats de décès en France qui sont signés par des urgentistes. Donc on a une quasi-embolie, on la connaît sur les urgences, et tout ce dont nous parlons participe vraiment, et c'est navrant, y compris dans l'affaire Bonne Maison, au délitement des équipes. Et c'est pas possible.
Charles Jousselin, est-ce que la loi Leonetti et le développement des soins palliatifs n'ont pas eu un effet sur le corps médical et en particulier sur les médecins, qui serait le fait qu'ils ont peut-être de moins en moins envie de devoir assumer des décisions et assumer le fait d'affronter justement la mort de leurs patients?
Alors c'est amusant parce que j'aurais dit exactement l'inverse. Alors moi qui suis tous les jours...
Ce n'est qu'une question.
Voilà, oui. Je suis tous les jours au chevet de patients qui sont atteints de maladies graves et qui vont mourir, pas forcément là, mais souvent dans des... Voilà, ils vont mourir. Et ce n'était pas tant la mort qui fait peur, mais c'est l'agonie, c'est l'agonie. Et alors cette agonie, il faut bien les accompagner, aussi bien les malades que les soignants, que les familles, etc. C'est ça qui est compliqué. Et donc pour ça, et merci de faire ce rappel anthropologique, l'essentiel de l'homme, quelle est la caractéristique de l'homme parmi les êtres vivants, c'est sa parole. Donc merci de rappeler que l'homme, c'est sa parole qui est essentielle. Donc,
mais pardonnez-moi, je vous interromps une petite seconde. Quand vous dites que ce n'est pas tant la mort qui fait peur, mais est-ce qu'il n'y a pas une peur que cette mort, vous en soyez rendu responsable de la part des médecins? Est-ce que cette peur-là, elle n'existe pas?
Non, responsable, ça voudrait dire que si je suis responsable de la mort de quelqu'un, ça voudrait que je serais tout puissant et que...
Non, ça veut dire aussi qu'on risque de se retourner contre moi et donc, voilà, je...
Alors moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Jamais je n'ai pensé à quoi que ce soit de cet ordre-là. Je pense que c'est ça que je voulais dire, c'est que l'essentiel, c'est quand même la parole. Alors, quand je dis la parole du malade, mais c'est la parole du médecin, c'est la parole des infirmières, c'est la parole des aides-soignantes, c'est la parole des familles. Il faut que cette parole circule. Et si cette parole circule, alors on va faire émerger cette singularité et cette particularité et cet accompagnement qui est indispensable. Car je prends juste un exemple sur la douleur, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'ai fait ma thèse de philosophie là-dessus. Je veux dire, l'autre jour, j'ai entendu un grand chercheur qui disait « On ne connaît pas le meilleur, on n'a pas encore trouvé le meilleur médicament contre la douleur. » Mais moi, si, je l'ai, parce que la douleur, ce n'est pas un symptôme. En revanche, on a toujours en face de nous un homme douloureux. Et quel est le meilleur médicament en face d'un homme douloureux? Eh bien, c'est un autre homme qui va le regarder, qui va l'écouter avant tout et qui va partager avec lui et l'accompagner. Et il fera comme il pourra pour l'accompagner. Et cette dimension humaine de la parole est essentielle dans le soin. Alors, vous voyez, on passe après, on s'écarte, on met de la justice. Tout le monde a sa place. En revanche, n'oublions quand même jamais qu'il s'agit d'un homme, d'une confiance et d'une parole dont il se passe toujours, tous les jours, alors qu'il est atteint d'une maladie très grave.
Et Bataille ?
Moi, j'aimerais qu'on parle d'aide active à mourir, sans parler d'euthanasie et sans parler de suicide assisté. Parce que c'est ce qui se passe. On peut rester dans une certaine hypocrisie, on peut reconstruire des faux-semblants plutôt efficaces, mais il y aura toujours une situation où la médecine se sentira engagée auprès d'un patient nécessitant éventuellement l'aide active à mourir. Ce qui se passe ailleurs, je pense en particulier au Québec par exemple, où ils vont dans cette direction de reconnaître qu'il y a des situations où la médecine très engagée doit accompagner dignement le patient à la fin de sa vie. Or, on continue à éviter ce débat, on continue à rentrer dans cette dimension qui est l'aide active à mourir et qui n'est pas simplement la réponse à l'injonction individualiste, personnelle, autoritaire d'un Français citoyen qui, comme Lucky Luke, serait un cow-boy solitaire. Voilà, c'est pas ça du tout. C'est une réalité thérapeutique, d'évolution des thérapeutiques, c'est une évolution du confort, c'est une évolution de l'exigence sur la qualité de la vie, et effectivement une évolution sociologique et anthropologique d'arriver lucidement face à des situations qui, après, sont l'agonie. Et oui, les Français ne veulent plus de l'agonie.
Est-ce qu'il n'y a pas, Philippe Bataille, une anomalie à vouloir faire assumer par le seul corps médical des décisions individuelles, donc d'en finir avec sa propre vie, décisions qui devraient peut-être être prises en charge par l'ensemble de la société? Pourquoi est-ce qu'on met ça sur le corps médical?
Mais la loi sert à ça. C'est-à-dire, la loi qui autorise ou qui interdit passe par le corps social qui s'exprime à travers les parlements. Et il faut quand même rajouter, y compris si j'entends votre invitation, qui décide l'impotence, l'inertie et l'immobilisme politique, en particulier depuis l'élection de François Hollande, sur ces questions. On a beau faire un certain nombre de consultations qui se répètent, avec des défauts qui se répètent, je le redis, n'avoir jamais auditionné un urgentiste, ni dans la commission Sicard, ni au CCNE, ni dans la conférence des citoyens, et j'en oublie trois ou quatre, c'est indiscutablement d'emblée tourner le dos à ce qui se passe à l'hôpital.
Et François Hollande, qui pendant sa campagne présidentielle avait pourtant une proposition qui pouvait sembler assez claire, c'était la numéro 21, je vous la cite. « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. » Bon, on verra bien ce que donnera la mission qui vient d'être installée.
Guillaume Drago. Il y a deux questions qui me paraissent tout à fait importantes. C'est la question de la liberté du patient. Ce qui est important, à mon sens, c'est que le patient puisse, jusqu'au moment où il a encore conscience, puisse être libre de sa décision, ou plus exactement que ceux qui l'entourent, que ce soit le corps médical, que ce soit la famille, lui laissent une certaine liberté.
Cette liberté du patient, elle doit primer sur la liberté du médecin de ne pas suivre la décision du patient?
Pas toujours. La loi organise parfois une décision médicale, par exemple à l'égard d'enfants mineurs, et parfois même contre la famille, pour une décision thérapeutique qui peut intervenir. La décision du médecin, elle intervient en conscience, et elle intervient en fonction de son art aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que être médecin, c'est un art particulier qui comprend une dimension technique et une dimension anthropologique extrêmement forte. Puis la deuxième question, la deuxième terme aussi auquel il faut porter attention, c'est la notion de dignité. Parce qu'en réalité, elle est devenue dans notre société extrêmement ambiguë. Elle est utilisée par ceux qui défendent l'assistance à la mort, n'est-ce pas, l'assistance à la fin de vie. Et elle est aussi utilisée par les grandes religions ou par le droit, puisque en France, le principe d'unité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle reconnue par le Conseil constitutionnel à propos des lois de la bioéthique. Donc il faut avoir une certaine prudence dans l'utilisation des mots, parce qu'en réalité ils peuvent être extrêmement ambivalents selon le contexte dans lequel on les emploie ou selon les caractéristiques qu'on veut leur donner.
Charles Josselin.
Oui, je veux dire, en tout cas merci de rappeler ce que vous dites, parce que les soins palliatifs, finalement, face à l'agonie, quelle est la réponse? Si je reprends la proposition du candidat François Hollande, qui est maintenant président de la République, il faut développer les soins palliatifs. Parce que c'est par cette formation qu'on a du mal à faire démarrer, mais bon, qui se développe de plus en plus, c'est par cette formation que nous pourrons comme ça accompagner et être... permettre qu'il y ait des apaisements soient possibles et que l'agonie se passe de façon convenable.
Et permettre aussi aux patients de changer choix, c'est-à-dire quand la douleur, par exemple, disparaît ou en tout cas est atténuée, vous constatez par exemple qu'il y a souvent des patients qui souhaitaient qu'on mette fin à leur vie et qui finalement...
Ça tous les jours. Les demandes d'euthanasie, elles viennent beaucoup plus des familles que des malades. Et dès que encore une fois, si vous mettez de la parole, si vous écoutez, si un être humain en souffrance est écouté par l'autre, il s'apaise. Et c'est-à-dire que ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous voyez, dès qu'on est un peu dans les généralités, on s'en sort pas, on a tous notre avis, etc. Mais dans la vraie vie, quand on est en face des patients atteints de maladies graves, ça se passe pas comme ça. Heureusement qu'on partage. Et juste un mot c'est ce partage de la parole qui permet d'avancer avec un processus qui ne se... Ça, on ne décide pas comme ça, on décide parce qu'on se rend compte et qu'on partage et que toute rencontre est potentiellement blessante et pas facile. Juste un mot sur la dignité. Moi, je veux bien, je suis... Enfin, moi j'ai fait un peu de philosophie, il me semble que la dignité elle est incomparable et inconditionnelle. Mais ce qui me paraît très important, c'est la dignité du professionnel. C'est-à-dire, quelle est ma dignité, moi, professionnel, en face d'un malade qui est en état de maladie grave? Eh bien, il faut peut-être que je sois digne de ma dignité, disait mon professeur Fiat.
La dignité, elle peut aussi être comprise comme le fait de rejeter tout ce qui serait indigne et la souffrance, par exemple, peut être considérée comme indigne. Auquel cas, il y a aussi une forme de pression sociale qui conduit à rejeter toute cette phase qui est représentée par l'agonie, Philippe Bataille.
Oui, dans le sens des interventions et sur votre question qu'il est lancée, est-ce qu'à la médecine de répondre à ces demandes, et on le voit, la question de la dignité est posée. On ne saurait poser la question de la dignité sans avoir en vis-à-vis celle de l'intégrité du docteur, du médecin, d'une équipe, du soignant, qui ne saurait se contrarier à réaliser des actes qui sont insensés. Et ça n'est pas ce qui se passe. On parle de la vraie vie, dit Charles Jocelyn. Il a raison, parce qu'elle existe. Ça n'arrive jamais quelqu'un qui dit « je vais bien, je suis en bonne santé, mais docteur, faites ce qu'il faut pour moi maintenant ». Ce n'est pas ce qui se passe. C'est dans des engagements, c'est dans ce qu'on appelle la confiance en son médecin.
C'est-à-dire que les directives anticipées, par exemple, ça ne réglera rien ?
Si les choses arrivent comme elles ont été écrites sur les directives anticipées. Mais s'il ne se passe rien, la médecine ne vous liquidera pas parce que vous avez écrit une directive anticipée. Qui dit, voilà, je veux dire, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et ce qui se passe au contraire, c'est que chacun s'engage, y compris dans des traitements. Parlons des patients du cancer, c'est la première pathologie, c'est eux qui fréquentent massivement les services de soins palliatifs. Il faut quand même dire, mais quel courage! Enfin, quand on parle d'acharnement thérapeutique et d'arrêt de l'acharnement thérapeutique, c'est souvent très très loin. Et tout le monde y va, y compris les malades qui une dernière opération, une chimio. Voilà. Et donc, lorsqu'on arrive dans des situations où après les mots deviennent durs, on arrive au seuil d'une complication, il y a des formes de délabrement qui apparaissent. Voilà, on est dans ces situations. C'est pas des gens qui disent « docteur, liquidez-moi ». Enfin, ces gens-là ont longtemps dit « docteur, soignez-moi ». Mais, et y compris à la toute fin, en demandant l'euthanasie, s'il existe une réponse médicale et soignante, cette demande reculera. Charles Jocelyn vient de le dire et c'est vrai. Donc, il n'est pas question d'avoir cette idée de départ, de dire « on va donner à la médecine le droit de tuer les gens enfin, ». Ça n'existe pas. Enfin.
Je voudrais rester encore un instant sur cette question des directives anticipées. Finalement, on n'a pas tellement expliqué en quoi ça consiste. Sur le site du ministère de la Santé, il l'explique justement. Donc, elles doivent être rédigées en tout cas depuis moins de 3 ans avant la date à partir de laquelle vous ne serez plus en état d'exprimer votre volonté. Ce sont des directives qui, heureusement, sont révocables à tout moment. Le médecin, dit le ministère de la Santé, doit en tenir compte, mais ça n'a pas de valeur contraignante. Est-ce que vous considérez, Charles Jocelyn, qu'il faudrait promouvoir peut-être davantage ces directives anticipées et que ça aiderait justement le médecin à prendre sa décision ?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les directives anticipées, elles ont une importance parce que c'est bien le patient qui les a.
Sauf qu'elles sont très peu utilisées. Hein.
Oui, déjà, mais elles ont une importance parce que c'est quelque chose qui a été écrit par le patient. En revanche, écrire, il me semble, et je vais peut-être un peu vous choquer, il me semble que poser des directives anticipées, c'est quelque part mettre en place une défiance quant à l'équipe soignante qui va me prendre en charge lorsque je serai malade. Vous voyez ? C'est-à-dire que je n'ai pas confiance, donc je leur dis ce que je veux. Alors, je caricature. Bon, donc, les directives anticipées ont toute leur place, je pense. Mais non, je pense qu'il faudrait que nous trouvions le moyen d'actualiser la parole d'un patient alors qu'il est très malade. Et c'est un peu ce que fait la loi, parce que la loi dit, finalement, si le malade ne peut pas me dire là ce qu'il est, en revanche, je vais aller me tourner vers la famille. Non pas pour leur demander leur avis, je n'y échapperai pas, ils me donneront leur avis, tant mieux, c'est bien. Mais je vais, à travers la famille et les proches, rechercher les souhaits antérieurement exprimés par le patient, c'est-à-dire redonner la parole à un patient qui ne l'a plus. Et ça, quand vous le faites avec les familles, c'est extrêmement émouvant. Et dans la vraie vie, comme dit Philippe Bataille, de tous les jours, bien sûr, non seulement c'est très émouvant, mais en plus, vous découvrez des choses et les familles s'apaisent, tout le monde s'apaise, ça ne règle pas tout, mais c'est un bon chemin.
À condition que les membres de la famille soient d'accord, ce qui n'est manifestement pas le cas dans l'affaire Vincent Lambert.
Non, je ne cherche pas l'accord de la famille. L'accord de la famille,
c'est... Non, je veux
ça,
dire l'accord entre eux, déjà.
Non, mais même pas. Vous connaissez des familles où tout le monde est d'accord? Moi, je ne connais pas beaucoup. Surtout quand il y a un drame dans la famille. C'est pas l'important. L'important, c'est pas de trouver un consensus, c'est un accord. L'important, c'est que chacun ait pu s'exprimer. Et puis, soit informé et ait pu s'exprimer. Ensuite, la décision, elle est faite de façon collégiale, qu'on l'a dit, par le monde médical et par les soignants, etc., etc., en ayant tenu compte de tout le monde et ce que tout le monde ait pu s'exprimer. s'exprimer. C'est ça l'essentiel. Si vous n'écoutez pas les familles, mais elles se déchirent évidemment, et même quand on les écoute, elles se déchirent encore. Mais on a besoin de les écouter, elles ont besoin de nous redonner la parole du patient. Donc il faut les écouter, et nous n'aurez pas d'accord. Je pense que chez vous, tout le monde ne doit pas être d'accord.
Je ne suis pas sûr, en tout cas, sur ces questions-là. Guillaume Drago, est-ce qu'on pourrait imaginer, d'un point de vue juridique, de donner une valeur contraignante à ces directives anticipées ?
Je ne crois pas qu'on puisse donner une valeur contraignante aux directives anticipées, tout simplement parce que...
c'est-à-dire qu'elles s'imposeraient aux médecins.
Tout d'abord, parce qu'elles doivent être nécessairement révocables, c'est-à-dire ce que dit la loi en l'espèce, c'est-à-dire que vous pouvez écrire des directives anticipées 3 ans avant avant d'être malade, et puis le jour où vous êtes dans une situation sur un lit d'hôpital où vous sentez que vous êtes en fin de vie, eh bien il est normal que ces directives ne puissent pas s'imposer, même à vous. Si elles étaient irrévocables, ça serait terrible. Et la deuxième raison, c'est que comme on vient de le dire, c'est une décision qui doit être à la fois collégiale, qui doit prendre en considération les souhaits du patient et le dialogue avec la famille. Mais en définitive, le médecin exerce sa compétence et il est là pour ça. Donc, en définitive, il doit quand même avoir à un moment la possibilité de prendre une décision avec toutes les précautions qui viennent d'être rappelées.
Mais il est médiateur, le médecin est médiateur. Le médecin, ça vient de médiation.
Voilà. On ne peut pas considérer que des décisions anticipées, des directives anticipées, soient absolument irrévocables. En cette matière, tout est question d'appréciation au moment opportun.
Philippe Bataille.
Écoutez-moi, je réclame l'aide active à mourir pour Vincent Lambert. Et non pas l'euthanasie passive, hein, qui est la seule forme de masque possible sur l'intention de faire mourir. Qui est clair, en débranchant, on fera mourir Vincent Lambert. Mais la manière dont ça va se passer, effectivement, peut commencer à heurter jusqu'à des instances européennes.
On peut revenir sur cette question. Je voulais insister sur le caractère des mesures provisoires telles que la Cour européenne les entend à raison de l'affaire Lambert. À quoi sert la Cour européenne dans cette affaire ? En présence d'un danger imminent, c'est ce que dit sa jurisprudence, c'est ce que dit le règlement de la Cour. La Cour peut imposer à un État d'arrêter un processus. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dans l'affaire Lambert, c'est assez nouveau que la Cour européenne mette en avant ce type de mesure provisoire pour une affaire médicale. Jusque-là, on l'appliquait à quoi ? On l'appliquait à des mesures d'extradition, des mesures d'expulsion, où on disait à telle personne, si on la renvoie dans son pays, elle va être immédiatement mise en prison, torturée, assassinée, etc. En l'espèce, l'intérêt de la mesure provisoire prise dans l'affaire Lambert, c'est qu'elle s'adresse à un domaine médical et qu'elle met en avant quoi ? Un élément de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à la vie. Parce que le droit à la vie, il n'est pas reconnu en tant que tel dans la loi française, en tout cas pas au niveau constitutionnel. Tandis que c'est l'article 2, un des premiers articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc l'exercice d'une mesure provisoire par la Cour...
On n'a intervenu dans aucun autre pays d'Europe où on meurt à peu près partout, dans les mêmes circonstances qu'en France, et parfois dans des dispositifs législatifs qui sont beaucoup plus intervenants. La Cour européenne n'est jamais intervenue. Donc il y a bien un problème de vide juridique ou de loi non finie.
Non, il y a un problème de volonté pour la Cour européenne des droits de l'homme de prendre une mesure provisoire,
mais
c'est-à-dire
pas en Belgique,
immédiate,
dire qu'ils doivent arrêter tout.
Mais c'est peut-être parce que la Cour n'a pas été saisie à ce titre. Et c'est là où, à mon avis, la décision de la Cour qui sera à venir, parce que la mesure provisoire n'est pas une décision au fond, n'est-ce pas ? La Cour va se prononcer au fond. C'est là où la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sera tout à fait intéressante à l'égard de cette question.
Voilà, on ne sait pas exactement d'ailleurs quand sera rendue cette décision. Un tout dernier mot, Charles Jousselin parle de droit à la vie, de droit à mourir dans la dignité, dans la pratique qui est la vôtre au quotidien. Quel est le droit qui vous semble prévaloir parmi les patients que vous rencontrez ? En gros, est-ce que les patients ont surtout peur qu'on s'acharne, qu'il y ait un acharnement thérapeutique à leur encontre, ou au contraire qu'ils soient face à une médecine expéditive qui, eh bien, pour des raisons peut-être notamment économiques, fasse en sorte que ça ne devienne pas le plus rapidement possible.
S'il y avait un droit qu'il fallait poser, c'est peut-être permettre que cette parole se partage et que cette médecine s'humanise. Et je voudrais saluer ici, en fait, une association d'étudiants en médecine effrayés par toutes ces histoires qui ont monté une association qui s'appelle Soigner dans la dignité. Voilà, si on pouvait avoir le droit d'apporter aux patients qu'ils aient la garantie, entre guillemets, promet que il sera soigné dans la dignité, au sens de tous ceux qui vont prendre soin seront dignes d'être dignes dans ce face-à-face et qu'une parole sera partagée, on aura fait beaucoup de choses dans l'humanisation des soins.
Ah ben merci beaucoup Charles Jousselin, Guillaume Drago et Philippe Bataille d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle votre livre, Philippe Bataille, aux éditions Autrement, La vie à la mort, euthanasie, le grand malentendu. Demain, nous vous proposerons une émission en partenariat avec le journal La Croix. Faut-il innover plutôt qu'inventer ?